On est absolument live avec Michael Dufort, man. Ça va le gros, tu me sens, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé.
Ça fait un bout, ouais, mais oui, ça va super bien. Je m'entraîne, je suis tout à Montréal, puis pas le temps de niaiser, comme ils disent.
Pas le temps de niaiser, gros, tu chill au Copacabana, man, avec ton tequila, ton Heineken, ça te fait bouger en tabarnak avec les grouillades pis tout.
Genre?
Genre, J-O-R, genre. Mais ouais, gros.
Genre?
Je suis content de te parler, Estimane. On n'a pas eu la chance, nous, de se parler en ondes, là, depuis ton dernier combat. Ton combat contre Jesse Ronson, qui s'est mérité les honneurs de combat de l'année, pis tout. Fait que, avec le recul, qu'est-ce que tu donnes de cette expérience-là, cette guerre de 5 rounds-là contre Jesse?
C'est une belle expérience, comme tu dis. J'ai pas le choix de le prendre, là. C'est arrivé, c'est arrivé. Mais c'est une belle expérience. Je te dirais que j'ai pris 5 ans d'expérience en l'instant 25 minutes, là. C'était merveilleux. Je peux pas demander mieux comme expérience, comme je t'ai dit.
Ouais, mais ça, on dirait vraiment, t'sais, une défaite camouflant la victoire, là, parce que c'est comme cette journée-là que, t'sais, tout le monde se dit, ah, t'sais, Dufort, il y a du potentiel, Dufort ci, Dufort ça, mais c'est comme ce jour-là que tout le monde s'est rendu compte que quand tu mettais un top devant Dufort, il allait au moins être compétitif pendant 25 minutes contre lui, pis t'sais, il donnait du
Eh oui, j'ai fait
trouble.
des bons combats, là. Quand tu regardes mes combats, si ça se finit pas trop vite, c'est un bon combat, là.
Ouais, ben c'est ça, ben je pense qu'il y a du monde qui se disait, t'sais, il n'y a pas encore la. On s'entend à Jesse Ronson, il est comme reconnu là partout à travers le monde du MMA comme étant un top, t'sais, un gars qui a juste perdu contre des top 15, genre de gars qu'il faut que tu battes pour, t'sais, être justement avoir ta place dans l'UFC pis tout, pis toi, gros, à juste 9 combats, man, t'es passé colissement approche, fait que c'est comme. S'il y avait jamais un doute dans la tête à quelqu'un que ah, tu es du fort, il est athlétique, non, 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 ben là aujourd'hui, tout le monde, ils le savent que c'est for real tout ça, man. Fait que moi, pour ma part, tu sais, c'est comme. C'est vraiment un esti de moment, là, d'ailleurs, là. Moi, j'étais cage side, j'avais les gars de Five Star, justement, là, Kev, pis Jim, elle s'en arrière de moi, et Xarif, pis.
Ouais, des malades, là, ça devait crier, ça devait être malade.
Oh, c'est fait ben du fun, le gros, à checker ça tout
C'est
le long.
définitif. On est passionné des placements factoriels.
Ben oui, c'est qu'il faut.
Ça vous semble compliqué, ça?
C'est quoi ça,
Petite annonce de fidélité, underline. On est commanditaire.
Ah, correct ça, man, correct ça.
Ouais, c'est ça, les gros commanditaires qui criaient pour leur vie, pratiquement. C'était Malade, Five Star, puis Salut Québec, qui sont toujours là, ringside. Ils vont être là, assurément, au prochain gala. Pas mal sûr que ça va être encore du ringside. Des
Probablement.
fouilles, ça, c'est merveilleux. C'est le fun d'être supporté par du monde qui aime autant ça que ces gars-là.
Ouais, c'est des fans là, de vraiment, tu sais, pas juste de toi, mais du sport pis tout, pis c'est hot qui s'impliquent là-dedans, justement, parce qu'ils peuvent, est-ce, ils ont une compagnie, ça marche bien, pis ça leur donne de la visibilité, mais c'est hot, là, tu sais, ils s'impliquent auprès de pas mal d'athlètes de la région, pis c'est cool parce que c'est des gars que, tu sais, ça fait sûrement autant à toi que moi, ça fait longtemps qu'on les connaît pis tout, pis c'est hot que, justement, amène, tu sais, ce monde-là. Chris, eux autres et tout, ça marche, man. Tout marche bien, tout le monde, tout est le fun, c'est le party. Mais là, ce que je me
Ah ouais,
disais,
carrément.
carrément, gros. Ce que je me demandais, moi, c'est-tu le combat contre Ronson qui a dit, qui t'a fait dire qu'il fallait absolument que tu retournes à 155? Ou c'était comme déjà in the works, pis t'as juste, avec ce combat-là, réussi à convaincre Patry de te laisser te battre à 155?
Je pense que c'est la deuxième énoncée que tu as dit, là. Vraiment, ce combat-là, je pense qu'il m'a donné un certain pouvoir, si on veut. J'ai eu le droit d'aller à 155 again. Puis mieux entouré que jamais, je te dirais. Mon équipe de nutrition est super, super, comment on dit, compétente, est super compétente. Là, ça fait un an que je suis installé à Montréal. Je veux dire, je suis mieux que jamais. Tu sais, mon dernier combat à 155, je voyageais beaucoup de Saint-Jean à Montréal. Là, constamment à Montréal. Tu peux pas avoir quelqu'un qui me surveille plus qu'un gars comme Richard Ho.
Ouais,
Genre.
c'est sa réputation, en effet.
Si mettons, quelqu'un m'envoie une photo de sa bouffe, puis Richard voit ça, Richard le met sur sa blacklist. Là, c'est. T'as pas le droit de rigoler avec la nourriture, puis moi.
Fait que là, ça va bien, à ce que je crois comprendre. C'était dans le bon chemin pour finalement réussir cette style white cut là à 155 livres.
Ah ouais, je suis déjà passé le cap des 170. Tu sais, ça va super bien là. Le poids, je te dis, ça va même pas être un défi, je pense. Habituellement, vous dites que le poids, c'est le gros défi de quelqu'un fort et non le combat, mais là, je pense que je me bats contre quelqu'un d'expérimenté, ça se peut que ce soit un peu plus rough que la.
Mais c'est fait que tu disais que la pilus allait probablement être un plus gros défi que la white cut. Là. Bref, c'est ça que j'avais
dit. Ah ouais, juste pour dire que la white cut va être facile. Là.
Ouais, parce que t'as pas l'air super impressionné par Damien la pilus non plus. Là.
Non. Je le vois pas. Je le vois jamais dans le. Je le vois pas aussi talentueux qu'un gars comme Jess Ronson. Puis, comme je te dis, j'ai tellement appris durant le combat contre Jesse que je suis une version 2.0 de moi contre Jess Ronson. Alors, je m'attends vraiment à être dominant dans ce combat-là, durant le combat. Puis, je m'attends à rien de... Tu sais, il m'a envoyé... Son petit frère, aujourd'hui, m'a envoyé un vidéo de Damien qui faisait des pads. Puis... En gros, j'y ai juste répondu de monter ses mains parce que ses mains étaient basses et qu'il allait l'endormir trop rapidement s'il ne montait pas. Je suis pas impressionné. Puis... Je commence à avoir une certaine expérience aussi. Puis comme je te dis, j'ai 9 combats pro. Puis mon combat contre Ronson a été une expérience incroyable. 5 rounds, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça dans leurs 10 premiers combats. Fait que ça va bien aller, je suis convaincu.
Yes, écoute, je sais pas si t'as le même read que moi, mais Damien Lapilus, c'est un bon combattant. Il est vraiment complet, il est bon debout, il est bon au sol, il est capable de tout faire ensemble. L'affaire, j'ai l'impression que c'est pas vraiment une menace de finish tant que ça. Puis t'as comme prouvé dans ton dernier combat que même un des meilleurs finishers comme dans le sport à ce poids-là allait pas vraiment être capable de te finir. Fait que j'ai comme l'impression que tu vas avoir 15 minutes pour faire ce que tu sais, pour réussir à tomber ce que t'as envie de tomber dessus, que ça soit une soumission, que ça soit un knockout punch. Mais je pense que justement ton dernier combat contre Ronson, ça ouvre d'autres portes. Je pense que il y a plus en plus de monde qui dit Chris Dufort pourrait peut-être en knocker un de bout, c'est peut-être de quoi qui se peut. Genre finalement après plusieurs combats, c'est quoi ta tribu, man, au fait que ton striking, est-ce qu'il est arrivé quelque chose, là, clairement, parce que t'étais capable, t'étais en sparring debout, t'étais bon, tout, t'avais pas rien à envier aux autres pour, tu sais, dans le temps qu'on s'entraînait ensemble à Saint-Jean, mais je sais pas ce qu'il y a, c'est quoi dans ta tête qui a vraiment cliqué pour que là, tu sois capable, tu sois confiant d'utiliser ton striking de home, tu sais, dans tes deux derniers combats, où c'est littéralement l'aspect de ta game qui a eu le plus d'impact, là, dans le combat, autant contre Moncayo que contre Ronson.
Je vais revenir à mon équipe, mon gars, mon équipe à Montréal. Je travaille d'arrache-pied, si on veut, pour justement improve ma game à tous les aspects, puis m'emmener mon sol. Il va bien, là. Ça sert à rien de faire 40 heures de sol par semaine. Donc, je fais un peu plus de stand-up, je fais un peu plus de sparring. Puis, comme je te dis, à Montréal, j'ai des sparring partner incroyable, là. Je m'entraîne avec des machines, mon gars, des gauchers, des bons gauchers au Tristar, des bons gauchers au H2O, et plusieurs athlètes qui viennent d'un peu partout pour venir s'entraîner au H2O et tout, comme au Tristar. Donc, un mix de mes entraîneurs, puis des partenaires d'entraînement chez qui fait que je suis jamais trop confortable, donc mon gars, sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'il faut pour improve dans n'importe quoi. Si tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu vas trouver le moyen de t'améliorer le plus.
Sans aucun doute, man. Fait que une petite prédiction vite, cette fight-là.
Moi, je pense pas qu'il y a mon talent. Puis s'il y a pas mon talent, je vois pas pourquoi il passerait un round, tu sais. Il est supposé être petit pour un 155 livres parce qu'il se battait à 145. Je me considère comme un gros 155. Donc, tu sais, il va pas pas être comme Jesse Ronson qui, je sais pas, il est parti son camp à combien? Il était gros, Jesse.
284 sûrement, là. De quoi dans le genre, ça n'a pas d'allure,
il
Jesse.
Gros dans le cage, man, pis... J'ai essayé le takedown, mais le gars, c'est un bon athlète. Il a une très bonne lutte. T'sais, il a perdu ses combats à l'UFC par ça, par de la lutte. C'est sûr qu'il est pas capable. Il s'est entraîné à côté sur sa lutte, puis il est difficile à amener au sol. Là. J'amène des gros gars au sol, puis ce gars-là... C'est sûr qu'une fois, il s'est tenu dans la cage, le tabarnak.
Ça, c'est le gros ça, là. C'est les trucs de vétéran, man. T'sais, entre tout pis moi, je pense pas de côté. Il a souvent dit la même affaire. T'as littéralement le droit de soit il colle ça un doigt dans l'œil, le kicker d'un noix ou de grabber à la cage solide une fois. Puis quand tu te fais avertir, après, t'as plus le droit. Mais rarement, tu vas perdre des points première offense, sauf si t'es John Jones pis tu nies un pauvre dude dans la face comme il a fait. Mais...
Il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu triches pas, t'essayes pas. Puis fuck, c'est vrai, là.
C'est ça.
Il l'a fait.
Ouais, il l'a fait, c'est un vétéran, Jesse Ronson. Il savait que c'était probablement le pétrin s'il se retrouvait en dessous de toi quand il s'est retrouvé sur le top. Moi, c'est peut-être l'aspect qui m'a le plus surpris dans le combat, mais je comprends et tout comment c'est arrivé. Quand il s'est retrouvé sur le top, il a crissement pas niaisé avec ça. Il a pas essayé de rouler avec toi. C'est juste, il a juste posturé puis il a tout de suite landé du ground and pound. Puis c'est vrai que quand tu te fais frapper dans la face, ça te tente moins, genre, de faire du gros jou puis peut-être plus défendre le fait que tu te fais frapper dans la face. Fait que je peux comprendre pourquoi ça a marché. Mais je le sais pertinemment et tout que lui, il allait tout faire pour pas se retrouver avec toi par-dessus lui. Genre, il savait que c'est probablement le pétrin si ça arrivait. Puis Chris, man, il a pull off le move de vétéran, man, le petit cage grab sur le side. Puis,
À quel round, tu te souviens-tu?
Je m'en rappelle pas, man. C'est, je l'ai réécouté plein de fois ce combat-là, mais j'ai réécouté tellement de combats depuis que je pourrais pas
te dire. Ça aurait pu être un game changer. Hey, je reviens dans 2 secondes.
Ouais, pas de 3 secondes.
On va plugger ça, c'était celle-là.
Ben ouais. Yes.
Good.
Bon, c'est ça, fait que, tu sais, on est en train d'en parler, pis je doute pas, le gros, que pas mal à toutes les places que t'as eu des entrevues, t'ont posé à crise de questions. Mais je vais t'en reposer pareil parce que moi je te l'ai pas encore posé. C'est quoi ton read sur Jourdain Ronson?
Hey, sérieusement là, je pense que je suis tanné de me faire poser la question.
J'en doute pas, man.
Je m'en crisse pour vrai. Je vais refaire mon combat, je me bats sur cette carte-là. Je pense que fuck. Je vais donner le meilleur combat que je peux, puis j'espère qu'ils vont faire de même de leur côté, mais Ronson, c'est une machine, je comprends même pas, regarde, je vais t'expliquer, là, je comprends même pas le match-up. What the fuck, man? Ronson a jamais défendu 155, il l'a-tu défendu?
Non, pas encore, mais...
Il a jamais défendu 170, Charles Jourdain a jamais défendu 145.
Ouais.
Fait que tu mets 2 champions, 3 ceintures, qui totalisent 3 ceintures, pis qui ont pas défendu une fois. Fuck, un gars comme Meunier à 170, il a veut la ceinture. Moi, je viens de... Mettons Ronson, tu lui donnes une défense parce que moi, je suis un 155, puis Ronson et tout. Mettons que tu lui donnes une défense. Fuck, man. Pour faire un double, tu sais, champ, là, faut que tu l'aies défendu, ta ceinture. Regarde Barrio, il l'a défendu, OK, c'est bon, va chercher l'autre ceinture, elle est vacante, c'est bon. Et là, je veux dire... En tout cas, c'est juste qu'on dirait que t'es KO et c'est de faire comme UFC, pis je trouve ça un peu dommage que, tu sais, je sais pas. Est-ce qu'il manque à ce point-là de profondeur? J'ai aucune idée, tu sais, mais je sais pas. Mais tu sais, c'est sûr que pour les fans, c'est intéressant. Le monde me parle de cet événement-là pis ils veulent juste savoir. Tu sais, ils me parlent en gros de ça, tu sais, hey, tu sais, ça va être malade, Jourdain va tuer Ronson. Blablabla, je sais pas, ok, mais ouais, ça va être un beau combat, c'est sûr. C'est 2 personnes talentueuses. Puis. Fuck. Ça va être beau. Je vais gagner mon combat, je vais aller dans le stand avec ma famille, puis peut-être regarder ça.
Peut-être.
Ouais, quand tu montes des stands, tu le sais que t'as pas bien le temps de faire grand-chose à part
parler à tout le monde.
À tout le monde. Ouais. Tomber dans les bras à mon père qui me pleure dans les bras.
Ah, ton père, moi, je vais tout le temps le voir après tous les combats. Puis, t'es-tu content? Oh, je commence ici, bro. T'es écœurant, mais c'est hâte de voir que toute ta famille, là, c'est hâte. Comme pas pour rien que t'as cette toune d'entrée-là et tout, je pense, man.
Ouais.
T'as clairement un esti de crew quand même de malade. C'est tout le temps des gangs d'ortho qui viennent voir tes combats. Là, que ça soit
ouais, ouais.
Toute ta famille, les amis, les ici. Ouais, c'est ça, oublie ça, gros.
Ils entendent.
Yes. Fait que Chris, man, pas payé ça. Si tu permets, on va juste prendre une mini pause parce que j'ai une nouvelle chronique sur le podcast cette semaine. Fait qu'on va colisser ça direct là. On revient dans 10 minutes avec Mick Dufa. Yo, tout le monde, c'est l'heure d'une nouvelle chronique qui est une chronique qu'on va appeler Les nouvelles du rap jeu. Avec la petite équipe de rap, on était supposé avoir Adèle, je sais pas trop il est où, mais faut quand même dire que c'est son idée à lui, man. Fait que même s'il est peut-être pas là. En ce moment, physiquement, il est là, tu sais, en pensée avec nous, là, à quelque part, peu importe ce qu'il est en train de coller, c'est-à-dire probablement jouer au Xbox. Ben, bref. Donc, yes, sir. Fait que, dès qu'on voulait faire cette petite chronique-là, quand on pourra sur le podcast pour parler des nouvelles du rap jeu, le concept est assez simple. On a chacun, genre, une nouvelle, puis on en parle, puis on réagit, puis c'est bien le fun, puis on garde ça short and sweet pour les gens. Qui veulent écouter Mick Dufort là, cette semaine. C'est-à-dire les affaires que Mick Dufort dit, ça c'est bien des affaires. Mais bref. Fait que c'était quoi ta nouvelle, toi? C'est quoi ta news of the week?
Moi, je suis passé à travers le CD de Juice WRLD qui est sorti début mars. C'est quoi encore? That Race for Love.
Ouais, la
grande.
La cover PlayStation 1, la cover de PlayStation 1 est quand même hot, là, pareil. Là.
Ouais, il est solide. Puis c'est ça, là, quand il est sorti, j'ai écouté le soir qu'il est sorti, puis il trouvait bien bon. Mais moi, j'ai toujours été un fan de Juice WRLD. Fait que là, j'ai réécouté ça cette semaine, là, juste noté des tunes popées. Puis je dirais, man, que. Mais comme je t'ai écrit tout à l'heure, il y a autant de filler que dans Naruto. Là, c'est pas mal ça. Là, parce que, oui, il y a des gems sur le CD, mais il y a aussi genre des tunes de la merde. Je pense qu'il y a 72 heures d'écoute. Tandis que, genre, okay. L'année passée, on pouvait des CD comme 7 chansons. Puis moi, je trouvais ça que c'était parfait. Comme 30 minutes max d'écoute. Puis. Ça se gonne vite, c'est parfait, là, des CD de même. Là. Mais 22 tonnes, c'est beaucoup. Mais là-dedans, j'ai sorti une couple de tonnes que j'aime bien, dont Robbery est solide. Ring Ring est solide. Flaws and Sins est solide. Puis. Fast, où tout est pas pire. Puis Hear Me Calling, mais je pense qu'elle était déjà sortie en single là, avant de.
Ouais, Hear Me Calling vient de sortir, c'est une vidéo. Là. Moi, j'ai vu ça aujourd'hui, ah. Là, ça m'a pas sorti aujourd'hui, mais. J'ai
vu ça. Est-ce que c'est mais je pense qu'elle est sortie là, comme un mois. Là. Mais ouais, honnêtement, c'est solide son affaire, man. Puis, je suis content qu'il y ait. Comme. Oui, j'aimais la musique à X, comme avant qu'il meure, puis tout. Fait que je suis content qu'il y ait quelqu'un qui prend la relève du emo rap, même si genre je vais souvent talk shit sur le emo rap. Genre, je trouve que Juice WRLD fait une bonne job, c'est pas pire. Ça, c'est ma petite nouvelle de la semaine.
Yes, aïe, moi, pour vrai, le gros, j'écoute les previews iTunes. Tu sais, sur l'iTunes Store, là, t'as comme des previews d'une minute et demie de chaque tune ou juste 30 secondes si c'est des tunes de 2 minutes. Fait que les CD de Lil Pump, tu peux pas plus entendre que 30 secondes d'aucune des chansons. Mais c'est bien correct. Puis, moi, tout, c'est ça, je trouvais qu'il y avait du filler en style là-dessus. Ben, moi, à base, quand je vois un album avec 24 tunes, je suis décollissé avant même de commencer à l'écouter.
Pis, ouais.
Tu sais, c'est gros, c'est l'eau là, du Juice WRLD, là, depuis moi, là.
Non, fucking right, man. J'écoutais ça avant de. On parle de podcast, là, juste pour me rafraîchir un peu, ça devient lourd, là, mais comme, tu sais, genre, une toune dans le mix, c'était là, c'est solide, là, j'aime bien ça, là, mais c'est pas comme, genre, tu sais, YG, son album qui a droppé, que genre, je pense que c'est comme 18 tonnes que genre, tu peux l'écouter, genre, fucking n'importe quand, tu sais, au complet, ça, genre, tu trouves pas les 20 avant la fin, t'es un tough, man.
Ah, définitivement. Mais gros, il a vendu un shit ton d'albums en plus, là, pour vrai. Là, j'essaie de trouver, c'est justement. C'est...
Je pense qu'il numbers, va être premier en ce moment.
Ouais, ça sent. Il va être number one au Billboard, Billboard 200, là, ça c'est sûr pour les
Ouais.
Ah, il a été un peu quand j'écris ça. Album sale, mettons. A first week sale, quand même. Genre, j'avais été. Je me rappelle, j'ai été surpris quand j'ai vu ça, là. C'était genre quelque chose de crissement comparable à tous les autres rappers, là. J'étais genre fuck, man.
Mais man, il, comme tu sais, on en a parlé la dernière fois, j'ai dit ça de même. Il est vraiment genre en. Si, constamment une bonne année, genre, il est vraiment en contention pour le rapper of the year à fin de l'année. Là.
Ah, il a vendu genre 168 000 copies à sa première semaine. C'est quand même beaucoup, là, je te dirais. Là, il n'y a pas beaucoup de monde qui batte 200 000 là, de nos jours. Là. Genre,
ouais.
Genre J. Cole, Kendrick, Drake. Étrangement, Meek Mill, mais.
C'est... Ouais.
Mais ouais, non, c'est ça, c'est. Mais il y a du feu dans la tabarnak, là, ça, pour te. Pour... Faut l'admettre, il y a du feu dans la crise. Mais c'est vrai que. D'un tune que t'as nommé Moutou, il y en a comme deux, trois là, que j'aimais. Robbery, je le sais pas encore. On dirait que j'aime le beat, mais j'aime pas ça me faire crier dans les oreilles. Puis, genre, le gros, je le sais pas pourquoi, quand j'écoute cette tune là, ça me fait penser à une tune genre de dalle que j'écoutais quand j'étais jeune, puis je peux pas replacer c'est quoi. Je sais pas si c'est The Used ou. Je sais que c'est pas My Chemical Romance, parce que ça, c'est un de mes groupes préférés dans le temps, fait qu'eux autres, je connais leur tune. Mais. Ça me fait penser à quelque chose que j'écoutais dans le temps du emo, là, pis je suis en gros. Quasiment l'impression qu'il a repris des mots ou des genres de flow de.
Ouais, ça se pourrait fort bien, là. On dirait qu'il est comme un style, genre. My Chemical Romance, mais pas en même temps. C'est comme. Je sais pas, c'est vraiment nouveau, là. Pis comme. Il se sépare tellement des autres, genre, emo rappers qui sont, genre, sur SoundCloud, là. C'est incroyable, c'est comme un des seuls qui perce en ce moment, tu sais, c'est comme, il y aurait lui, puis il y aurait X, il serait encore là, en train de faire de la bonne musique.
Lil Peep et tout, man, mais
j'ai juste espéré qu'il trouve ça. L'affaire, c'est Lil Peep s'est fait découvrir plus après, right, comme, c'est ça qui est triste, là. Il s'est fait découvrir après, quand après tout ça s'est passé, mais tu sais, Juice WRLD, genre, c'est comme, il est là parce qu'il est bon, right? Genre, il est pas découvert parce que, genre, oh shit, c'est qui ce gars-là? C'est pas comme YMW Melly, là. Parce que, genre, mon écoute ça tourne parce que c'est une vidange, là. Genre, c'est pas les mêmes raisons, là.
Ouais, mais bon, ça crise de tourne, par exemple, mais ouais,
c'est ouais. Mais comme c'est une raison qu'elle climb les ranks, genre, aussi vite.
Ouais, ah oh, ouais, non, c'est ça, c'est en train de devenir populaire à ce temps que le monde sait qu'il a probablement tué ses deux meilleurs chums, pis il essaie d'établir des liens entre ça et la toune, bien que ça a comme aucun calice de rapport parce que la toune est sortie, voilà, quasiment un an, pis il aurait tué ses chums au mois d'octobre, genre, mais en tout cas, c'est ça.
Mais moi, j'essaie toujours de faire des liens avec des tounes, genre, peu importe qu'est-ce qui se passe, que ce soit genre la verse dans Sicko Mode, que genre Drake a bang Kim K, whatever.
Ouais.
C'est, le monde fait toujours ça,
man. Yes, hey, le gros, tu t'as même pas idée à quel point c'est un segue parfait, parce que moi, ma nouvelle de la semaine, ça concerne Sicko Mode.
Concerne
Sicko Mode, qui est maintenant officiellement à égalité au troisième rang pour le plus de temps dans le top 10 du Billboard 100 pour une toune. Fait que dans le fond, ça fait colissement 31 semaines que Sicko Mode est dans le top 10 des tounes les plus populaires au monde. Pis ça le met à égalité avec des esti-tunes qui ont pas d'allure, genre Uptown Funk. C'est fucké de passer ça, là, mais Uptown Funk, il y a genre Closer, des Chainsmokers, et genre.
Okay.
Fait que dans le fond, le record, c'est 33 semaines dans le top 10. C'est Shape of You de Ed Sheeran, pis Girls Like You de Maroon 5. Fait que dans le fond, si c'est Sicko Mode. Ouais, si Sicko Mode reste dans le top 10 du Billboard 100 une semaine de plus, ça va être à égalité avec genre le plus gros hit de l'histoire de l'humanité, là, genre littéralement. Là.
Damn, c'est solide ça.
Ouais.
C'est de la bonne nouvelle.
C'est de la crise de bonne nouvelle, une meilleure nouvelle que de voir genre Blueface dans le top 5 genre des charts hip-hop.
Ah ouais. Ouais. En parlant de Blueface, j'ai tombé sur j'ai cherché ça sur Instagram tout à l'heure, là, Lemonade Stand, genre, c'est comme un concert qui a à soir, whatever, genre, Blueface, Gunna. Mais pas Gunna, genre NLE Gunna ou Chopper, ou quelque chose de même. Lil Mosey, peut-être ça. Là, je sais quel line-up, je sais comme.
Ouais, le monde qui va assister à ça va avoir un gros maximum 15-16 ans. Là. Gros mec. Ouais. Gros mec.
Puis là, on couche la nouvelle à Adam, on en parle dessus.
Ouais, gros, ça te tente, man. Ça te tente, on peut. Genre, on a entendu entre les branches qui voulaient parler du vénérable R. Kelly.
Fait que. Moi, j'abonne les memes qui sortent, là. J'ai pas trop suivi la nouvelle, j'ai suivi les memes, c'est pas mal ça.
Ouais. Moi, pour ma part, man, je suis vraiment pas comme dans le business de déclarer quelqu'un coupable avant qu'il soit déclaré coupable. Puis gros, pour être franc avec toi, je me suis pas renseigné non plus sur l'histoire de ma calice de R. Kelly. Fait que j'ai pas checké le documentaire, j'ai pas checké les derniers développements pis tout, mais genre, il paraît qu'il y a des tapes pis tout, genre, de lui qui commet ces actes-là. Puis c'est comme quelqu'un que on dirait ça fait tellement, tu sais, genre... Littéralement, depuis que je suis jeune, on entend dire que genre R. Kelly, c'est un esti creep qui aime les, genre, les petites filles de 14-15 ans, man, et encore plus jeune. Fait que c'est comme... Je sais pas, man, not surprise, on dirait, là, c'est... On est direct à l'époque où c'est que toutes ces affaires-là et tout, ça ressort des placards pour pas mal tout le monde. Fait que R. Kelly, il me semble que... J'étais plus surpris que ça soit pas encore arrivé que je... C'est pas mal ça, ma réaction, dans le fond. J'étais surpris que ça soit pas déjà arrivé, man.
Ouais, ça fait longtemps que ça court, là, ça... Rumeur, là, genre, si on peut dire que c'est une rumeur, là, c'est un bout, là, fait que c'est sûr que c'est pas surprenant, mais c'est comme, genre, surprenant de voir qu'ils prennent finalement action, tu sais.
Ouais.
C'est ça, là, après tout ce temps-là, là.
C'est un peu la même affaire que Michael Jackson, tout, là, j'ai l'impression, là.
Bon, mais eux autres, ils ont jamais rien fait, là.
Non, c'est ça.
Ils ont jamais pris action, là, pis là, il est mort, fait que c'est comme, ce qu'ils vont faire, là.
Ouais, ben là, il y a le petit documentaire, là, quelque chose, Neverland, ouais, là.
Pis... Leaving Neverland.
Ouais, ouais, pis là, c'est ça, là. Pis c'est un des kids, justement, là, qui était tout le temps collé sur lui dans le temps, pis qui disait, ah non, y a rien de weird, là. Ils disaient, ouais, finalement, c'était weird en tabarnak, mais. Tu sais, c'est comme. Ça et tout, on dirait qu'on le savait, là.
C'est weird, là.
Ouais,
c'est. Parallèle par rapport, là, mais genre, j'ai écouté l'émission de South Park récemment avec Michael Jackson dedans, genre, qui est comme une maison pour jouer avec les kids, là, c'est fucking golden, là, genre, je sais, tu viens d'écouter South Park, celle-là vaut la peine, man.
Ah, et South Park, ouais, je le sais exactement de quel épisode tu parles, le gros, pis définitivement un bon épisode. Un de mes préférés, je dois te dire, avec. Celui que le monde y mange par le cul pis il chie par la gueule. Là. Ça, je pense que c'est mon top épisode de South Park, man.
Ouais.
Je sais pas
ouais.
Pourquoi. On dirait à chaque fois que je pogne South Park, par hasard, c'est tout le temps elle qui joue. Fait que je suis tout le temps bien content, man.
Ouais, sûrement c'était les Toons.
Ouais, ben. Ouais, stock, ouais, probablement.
Ouais.
Mais Chris, ouais, c'est ça. Fait que that's it, man. C'est la chronique des nouvelles du rap jeu.
Avec, Short and sweet.
Short and sweet. Shout out à Adam pour l'idée. On espère qu'il va être là la prochaine fois. Man.
Mm-hmm.
Yes, sir. Thank you.
Ciao. Yeah, thanks, man. Ciao.
Bon, on est back avec Mick Dufort. Puis là, on a fait la première portion. C'est la portion genre, ah, salut Mick, là, t'as un combat. Faut parler de ton combat. Faut parler de ton ancien combat. Faut parler, tu sais, le bout de plate, dans le fond. Là, le gros, j'ai envie qu'on passe au bout un peu plus le fun. J'ai une couple d'affaires que je voulais te parler. Puis je pense qu'on va direct commencer avec. Avec notre chum Odell Beckham Jr., man.
Oh shit!
Oh shit! Il a été échangé aux Browns de Cleveland. C'est quoi ton impression sur ce trade-là, toi, là? Les Browns sont-tu automatiquement rendus un esti de bon team, genre?
C'est que les Browns ont quand même donné une bonne saison l'année passée avec leur nouveau QB, avec Jarvis Landry. Njoku qui est tight end, je crois. Fuck, les Browns sont une meilleure équipe.
Ils sont allés chercher Earl Thomas et tout, là. Fait que.
C'est ça, ils ont facilement été chercher un top 5 receveur dans la ligue, sinon le meilleur receveur. Mon frère qui est fan des Giants, je pense que ça fait mal.
Mais, lequel, ça?
Bass.
Ce qui est mal,
ben, mon frère, c'est un fan des Steelers. Antonio Brown, bye bye. Le Bell, bye bye. Oh, bon, ben, dis-moi, mes frères.
Non.
Ben, oh, bon, ben. T'as Juju qui remplace Antonio Brown. Tu sais, t'as Saquon Barkley qui avait pris de plus en plus de responsabilités avec les Giants. Fait pour ça, ça va. Tu sais, ça. Ça va être une saison de marde, je pense, pour les Giants.
Ça fait une coupe mais... anyway, là.
Hein?
Ça fait une coupe anyway, là. Je pense qu'ils s'en viennent habitués, là.
Ouais, c'est ça. C'est... Eli Manning est juste terminé, là. Je pense qu'ils vont drafter un QB. Puis, ben, en même temps, si tu draftes un bon QB, il est capable d'être. De te donner une bonne première saison, tu sais, l'avenir peut être belle. Mais bon. Ouais, c'est un méga move. Il y a... J'ai écouté plusieurs analystes qui parlaient de ça, puis tu sais, ça dit que c'est un win-win trade que les Browns auraient dû un peu plus donner, malgré qu'ils ont donné Pepper, je pense, puis un, deux choix de ronde. Il y a beaucoup de monde qui disait que les Browns auraient dû un peu plus donner pour avoir un receveur de cette trempe-là, mais c'est un win-win pareil, vu la situation des équipes.
Y'a-tu le plus gros move, genre de. Genre, trade bar oblique free agent, parce que c'est free agent et tout là en ce moment. Ça, ouais. C'est-tu le plus gros move là, que les Browns viennent de faire, genre le tour de force complet, ou c'est les Jets avec Le'Veon Bell? Le'Veon Bell et tout, ça change une équipe là, en offensive. Là.
Le'Veon Bell, c'est un gars qui est multitasked, il va tout faire, il va aider par la passe. Ces deux receveurs, je pense, recrues l'an passé, Darnold puis fucking le first overall, je me souviens pas de son nom.
Non plus.
Les QB des Browns, en tout cas, c'est Mayfield, deux receveurs.
Ouais, Baker ouais. Mayfield, ouais.
Deux receveurs qui étaient recrues l'an passé, puis tout à coup, mon gars, ils ont un méga boost à l'équipe. C'est là que tu vois que, je pense, la direction a confiance en leurs receveurs, fait qu'ils sont prêts à bien les... À leurs QB, ils sont prêts à bien les entourer. Puis... J'ai écouté, comme je te dis, des analystes, puis ils disent, c'est drôle, pareil, le off-season est plus intéressant que le Super Bowl cette année. C'est fucking vrai.
Ouais, ben le monde dit ça. Moi, j'ai aimé ça, le Super Bowl cette année, man. J'ai apprécié chaque seconde de voir les Patriots gagner, man. Puis j'ai pu rire d'Adam Levine un peu en dessous, tu sais, gros. C'est correct, ben, c'est sûr que moi, c'est mon équipe préférée au Super Bowl. Fait que s'ils gagnent, je suis content, même si c'est un esti de match de merde, mais des fois, des matchs. En levant, ça finit que c'est trop stressant, j'ai juste peur que les Patriots perdent. Fait que j'ai
regarde, les Pats qui ont gagné contre les Falcons, ça c'était débile.
Ouais, oh, ça c'était. C'est,
les Pats qui ont perdu contre les Eagles, ça c'était débile. Ouais, c'est les Pats sont bons, sont nice quand ils donnent des belles prestations de Super Bowl de même, mais là cette année c'était pas fou.
Ouais, il y a comme peu d'attaques là, dans ce Super Bowl là, c'est juste ça qui est arrivé. Comme les deux attaques se sont faites shutdown, puis t'sais, l'attaque des Rams c'est un peu plus fait shutdown, fait que ça. Ça a juste donné un petit match de merde, mais t'sais, ça arrive, le gros, là. Je vais toujours me rappeler l'année que les Seahawks avaient pogné les Broncos. Tout le monde disait, c'est un esti de Super Bowl de merde parce que ça avait été une volée, là. Genre, un esti de raclée de mon gars.
Moi,
j'avais aimé ça. Moi, je laissais Peyton Manning, le gros. J'ai jamais eu autant de plaisir à checker, genre, les Seahawks faire 44 points, man. C'était magnifique, là. Moi, j'étais un Brady guy, là, j'ai pas le jugé. Fait que Peyton Manning, c'est l'ennemi juré, man. Puis, c'est sûr que les Seahawks, j'ai toujours aimé, là. J'ai un gros, justement, je pense que c'est l'année que Richard Sherman, il a ben gros fait parler de lui, pis tout. Puis, moi, je l'aimais, Richard Sherman, man. J'ai jamais.
Ah, il est frais. C'était le meilleur.
Cornerback, ouais.
À sa position à cette année-là, je pense pas mal.
Pas mal, ouais. Mais, ouais, c'est sinon, c'est rare que. On dirait qu'il se passe des gros moves de même pendant comme l'été du football, qui est l'hiver, en fait. Là. Puis que ça fait que, Chris, on dirait que je suis déjà comme plus excité pour le début de la saison de la NFL que pour ce qui va commencer à se passer dans la NHL dans pas trop long. Hein. On dirait que...
Ben, moi, j'ai mon fantasy, là. Mon fantasy au foot. Puis là, j'ai Le'Veon Bell. C'est un keeper league. Fait que là, j'ai Le'Veon Bell. J'ai... En tout cas, je vais keeper Le'Veon. J'espère qu'il va être débile avec les Jets.
Sûrement, man. C'est un bon joueur de foot, là. C'est pas parce que. Tu sais, on s'attend à les Steelers et tout. C'est un genre d'équipe qui est en train de prendre une drop,
c'est
là.
C'est un bon joueur d'équipe. C'est un excellent joueur de football.
Ouais, c'est un des meilleurs qu'on a vu à sa position, là, probablement, là. Un esti top, là. Fait que d'après moi, ça va. C'est qui le QB des Jets?
Darnold?
Ah, c'est vrai.
La recrue, l'an passé.
Ouais, Darnold, c'est vrai. Ah, ça a de l'allure, Chris. Ça a de l'allure.
C'est deuxième QB, l'an passé,
ouais.
Bref.
Ouais, c'est vrai. Ah, ça a de l'allure d'abord, man.
Il a une tête de con, mais il est bon.
Calisse, man. Ouais, man, asti. C'est un bon segway, ça, en parlant de tête de con, mais qui est bon, mais qui est torto as fuck. Toi, mais Conor McGregor, man. What the fuck is happening with Conor McGregor, le gros, il a... Je sais pas si t'as sûrement entendu, là, il a smashé un sel d'un dude en sortant d'un bar, il s'est fait arrêter, pis tout, plus la grosse news dans l'MMA, fait que j'ai comme pas le choix d'en parler un peu, parce que Chris, c'est Conor McGregor, pis il a smashé un sel. Qu'est-ce qui arrive, tabarnak, man? C'est quoi, il était trop sur la poudre, genre, pis il a juste rage...
Ben, il y a beaucoup d'athlètes qui sont de même pareil. Tu sais, t'as jamais vraiment eu de vie. Là, du jour au lendemain, t'es une méga star. Mon gars, c'est dur pour un athlète. On voit surtout ça dans sport comme le football, ces affaires-là, parce qu'ils font beaucoup d'argent d'un coup. Ils se font drafter, mettons, au basket, puis ils font beaucoup d'argent tout de suite. Puis là, ils...
Vivent fous, puis ils noquent leur blonde d'un ascenseur, genre.
Ray style, ouais.
Ouais, c'est pas mal ça qui arrive avec les joueurs de foot, mais. Ah, j'avoue, man, ça fait souvent ça avec les sportifs, mais Chris, me semble.
Ben, man, t'as jamais pu vivre, pis du jour au lendemain, t'as tout l'argent du monde pour faire ce que tu veux. Je sais pas. Moi, j'ai pas une calice de scène, ben. Je sais pas ce qu'il veut, mais. Je veux dire, je pense que je garde de comprendre. Tu sais, un gars comme Connor en même temps. Ben, je sais pas. Je pense qu'il y a de comprendre un peu, mais en même temps, il dérape beaucoup, là, je pense.
Ouais, ben c'est ça. C'est parce que des fois, il dirait qu'il y a comme l'impression qu'il peut faire absolument n'importe quoi pis qu'il y a rien qui va y arriver, parce que c'est souvent ça qui arrive dans son cas. Tu sais, quand il a jumpé à la cage de Bellator pis qu'il est allé, genre, célébrer avec son chum pis il a poussé le ref pis tout, tu sais, il a rien arrivé. Là, après ça, il a lancé le style Dolly, comme... semi-arrivé de quoi, mais quand on regarde ça, en général, il est fucking rien arrivé. Là, encore avec ça, il arrivera rien, là, entre toi et moi, ils vont pas, genre, le crisser en tôle parce qu'il a smashé un sel, tabarnak, mais c'est comme... Des fois, j'ai l'impression que le gars, il pense littéralement que... c'est genre, moi, je suis connu avec un gars, je peux littéralement faire n'importe quoi, pis genre, il a de l'do fucking none, mais finalement, ils ont fait... C'est comme... C'est pas... Il aide pas, c'est genre, son... Ouais, c'est ça, mais il aide pas son image, hein, d'un coup, parce que quand même, si t'enlèves tout ça, ces genres de frasques-là, ça reste un gars que, tu sais, il est quand même inspirant pour l'athlète moyen, tu sais, il y a un paquet, gros, tu peux checker des vidéos, là, de montage, de quotes inspirantes de Conor McGregor, pis nanana, fait que...
Ben, comme juste son Netflix, son documentaire Netflix, tout, là, c'est de la bombe, tu sais.
Ouais.
Juste un peu inspirant pour l'athlète normal, il est inspirant pour tout le monde. Là. Quand un gars comme LeBron James parle de toi, t'es automatiquement quelqu'un de méga célèbre. Là. T'sais, Conor McGregor, c'est une superstar. C'est big.
Ouais, mais c'est juste Chris, man. Je sais pas, man. On dirait qu'il est en train de devenir le Bieber du MMA, man. Genre, il devient tellement famous qu'il fait un paquet de petites niaiseries, là, pis il se fait arrêter, là, genre, dans des... T'sais, il y a rien de grave, c'est juste de la petite patinage, là, pis ça l'alimente les nouvelles, là, tout le monde parle de ça, pis tout le monde aime dire que, ah, oh, mon Dieu, là, c'est la fin de sa carrière, il pourra plus aller aux États-Unis, nanana, nanana, pis ça fait capoter le monde, pis c'est juste bon pour les sites de nouvelles, là, dans le fond, là, quand tu y penses bien comme faut, mais Chris, mais je me dis qu'à un moment donné... Je sais pas, man. On dirait que j'arrive là, pis j'ai même pas d'opinion. Je sais même pas quoi dire sur ce sujet-là. Je trouve juste ça ortho, man. Ortho que ça soit la plus grosse nouvelle, là, genre de la semaine, que tout le monde parle rien que de ça. Tu sais, on s'entend que il a juste pété sa coche après un gars, pis il a smashé son crisse de sel. D'un autre côté, je trouve ça ortho que, genre, tu sais, le gars, t'es Conor McGregor, t'es dans un bar. Il y a plein de monde qui doivent prendre des snapshots de toi depuis tout à l'heure. Pis tout, pourquoi qu'à un moment donné, tu pètes la coche pis tu smashes le sel à un dos de nowhere? Genre, c'est comme. Drôle de comportement à avoir. Je m'attendrais plus à avoir John Jones faire des styles d'affaires de même.
Ouais. Ouais, non. En tout cas.
Non, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus.
Comme même. Tu dis, il n'y a rien à dire en même temps sur ça. Tu sais, il a pété sa coche, il a pété sa coche. Au moins, il a blessé personne.
Ouais, c'est ça. Au moins, il a pas traumatisé Tug Rose pendant 6 mois, man. En lançant de quoi à travers sa vitre de bus. Fait. Pour ça, on est correct, man. C'est pas son acte le plus monstrueux. Je pense même que pousser le ref dans la cage, c'était plus ortho que ça, là. Au vrai, là. Quand il a popé la cage de Bellator, là, out of nowhere, pis il a espagné avec le ref, ça, c'était... C'était un peu plus ortho, man, ça... Et je me disais, je fais-tu une vidéo en pétant une coche, pis tout, pis j'ai gros, j'ai comme pas envie de péter une coche, j'ai pas envie de péter...
Ok, oui.
Ouais, je l'avais fait quand il a popé la cage, je l'ai déjà fait pour Mario Yamasaki et tout, mais... Là, j'étais là, Chris, tu sais, ça pourrait, vu que c'est une grosse news, je pourrais, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de péter une coche après ça, là. Je m'en rends Chris, man. Puis de toute façon.
Ça vaut pas la peine.
Non, c'est ça. Puis il y a une partie de moi, comme tu dis, qui comprend que... Tu sais, le gros, man, mettons, tu deviens ultra famous, tu vas d'un bar, là, tu vas arrêter de prendre des photos de moi, genre, parce que je suis là, tabarnak, tu sais, c'est comme... Lui, tout, c'est un humain, là, d'un côté. Tu penses qu'à chaque fois qu'il va à quelque part, il y a tout le temps un esti de cas avec son sel dans les mains pour prendre une photo de lui, prendre une vidéo de lui, prendre une photo avec lui. Maintenant, là, tu te dis, là, le gros, calissez-moi à paix, à soir, là, ma calisse de gang de retour, là.
Tu sais, genre... Puis il devait être intoxiqué, puis...
Ouais, nécessairement, juste... là.
Probablement pété une cloche, là, hey.
Nécessairement.
Que j'ai une petite cloche.
C'est ça. De là à dire que la poudre, man, ça l'aide pas au comportement agressif. Déjà qu'il est agressif de nature, là, je pense qu'il devrait plus se retourner fumer du pot avec Mike Tyson, man. Ça, c'est ça que devrait faire Connor.
Ouais.
Fumer des gros joints avec Mike Tyson, me laisser à la poudre pour John Jones. Lui, au moins, ça. Au moins, c'est comme. Comment dire? Dans sa routine.
Ouais.
Dans sa routine d'avant combat, là. C'est une fois un paquet de poudre, mais ouais, sinon, on a UFC en fin de semaine. Coupe de combat qui arrive. Un dont je voulais probablement, je sais pas ce que ton opinion ce combat-là, tu vas me le dire assez vite, mais j'ai l'impression qu'on a probablement la même opinion, c'est Darren Till contre George Masvidal.
Fuck, c'est frais ça, hein?
Ouais, quand même.
Darren Till est beaucoup trop bon, je pense. Darren Till, Masvidal, c'est un ancien 155. Darren Till, c'est un énorme 170. Je pense que Darren Till va faire comme il a fait avec Cowboy. Il va le détruire.
Ouais, ben c'est ça, hein. On pense exactement la même affaire, dans le fond. C'est, tu vois le match-up, là, tu lis ça, t'es genre, ah, Chris, c'est deux Warriors, ça, Till, Masvidal, ça va être bon. Puis après, tu réfléchis une seconde au combat. T'es genre, gros, c'est littéralement un 155 contre un 185 qui passe pas, je vais succéder à chaque fois qu'il fait 205, mais c'est ça pareil, le match-up, man, pis c'est ça, man, Calis, c'est juste... Till serait vraiment hors taux de perdre, là.
Ouais, mais Till a choqué à mort contre Woodley. Et je sais pas, si il est pas revenu de sa défaite en même temps.
Je sais bien, mais gros, Masvidal va faire quoi contre lui? Tu sais, Masvidal, c'est quoi sa grosse force? C'est qu'il est bon partout. Ça aide genre un master nulle part. Il est bon partout, il est fucking complet. Mais sa plus grosse faiblesse, c'est que quand il se fait pas faire mal, genre il se bat pas. C'est comme, il se fait pas faire mal, fait qu'il est genre, mais tu sais, peut-être qu'il land plus que moi, mais il y a rien qui me fait mal. Moi, je land des gros coups, fait que je dois être en avance. Fait que là, il se met à genre coaster parce qu'il pense qu'il est en avance, puis il paye des esti split decision bâtard, là. Parce que, tu sais, Masvidal, pour un gars qu'on connaît comme étant un top, il a quand même 13 défaites à sa fiche, là.
Ouais.
T'sais, c'est un gars qui perd des astis de combat qu'il devrait pas perdre.
Ouais, il peut pas trop se fier à sa fiche, là. Regarde un gars comme Dos Anjos, là, qui a une fiche ordinaire et tout, pis, tu sais, Dos Anjos, moi, c'est un de mes combattants préférés, là.
Ouais.
Il est tellement bon, puis il y a une lutte de débile. Puis en plus, j'aime ce qu'il a fait. Il a arrêté les 155 pour aller les 170. Tu peux pas trop regarder le record. Là. Le monde apprenne beaucoup plus d'une défaite que d'une victoire. Alors.
C'est sûr. Il a beaucoup appris dans le fond, George Masvidal. Mais c'est juste... Parce que tu sais, il y a des défaites que t'es genre... Okay, t'sais, il a perdu contre, mettons, Dos Anjos. T'es genre, okay, il a perdu par décision contre Kamaru Usman. Il y a rien de mal à ça. Perdu contre Colby Covington. Tu regardes toutes les défaites à Dos Anjos, je pense pas que tu vas en trouver vraiment que tu vas te dire genre, ah, c'est pas une bonne défaite, ça. Tu sais, tu comprends, ça fait mal sur sa fiche. Pourtant, Masvidal, il y en a une coupe de ceux-là, là. Pis c'est tout le temps des split decisions, c'est tout le temps un combat qu'il pensait avoir gagné. C'est comme quand il s'est battu contre Aya Quinta, il pensait avoir gagné tellement qu'il a arrêté de se battre, il a perdu le troisième, puis il a perdu par décision. Puis c'est la fois que Aya Quinta criait à la foule qu'il fallait pas qu'il eût pis tout. Fait que ça a donné un moment fucking épique au final, mais c'est comme Masvidal aurait probablement dû gagner ce fight-là. Il a juste arrêté de se battre, pis j'ai l'impression que... En fait, je sais pas qu'est-ce que ça va faire contre Darren Till. Parce que Darren Till, ça peut être autant un tueur contre Cowboy, qu'il peut te regarder pendant 5 rounds comme il a fait avec Woodley pis Wonderboy, pis s'il se met à regarder Masvidal pis Masvidal pense qu'il gagne fait qu'il fait rien, ça se peut que ça soit long en tabarnak, genre.
Ah ouais, comme tu dis, contre Wonderboy, c'était long, c'était pénible. On était tout le temps sur notre appétit. Puis on restait tout le temps dans le combat comme ça parce qu'on savait qu'il pouvait avoir un KO à n'importe quelle seconde. Mais Chris, que c'était plate comme combat.
Ah, ça, là, c'était un des combats les plus bizarres parce que je peux. Genre, moi, j'ai personnellement été crissement excité pendant les 25 minutes du combat. Parce
ouais,
que là, c'est le Chris. Va arriver de quoi, man? Va arriver de quoi, assis? Va arriver de quoi? Puis là, finalement, dès que ça a fini, c'est genre toute ton excitation qui fait genre pif! Là, t'es genre Chris dans le fond, il a rien arrivé, c'est de la merde, man. C'est un des pires combats que j'ai vu de ma vie, man.
Ouais, c'est vraiment un combat de merde.
Yes! Le co-main event de cette carte-là, man, c'est vraiment, selon moi, le combat à checker. J'aurais aimé ça que ça soit main event parce que j'aurais bien plus envie de voir Saint-Rand de ça que de voir Saint-Rand de Till contre Masvidal. C'est Leon Edwards contre Gunnar Nelson.
Mm-hmm.
C'est.
Ouais, hein? C'est où l'événement?
C'est à Londres.
Ok.
Pour ça qu'il y a un paquet d'anglais puis de gens de d'ailleurs.
Gunnar Nelson, un autre Européen.
Ouais, exactement. C'est pas mal la carte. C'est pas mal. Une fois ou trois mois, là, sont à quelque part en Europe puis c'est là qu'ils te plug, là, justement, là. Till, Nelson, Leon Edwards, tous ces gars-là. Il y a Volcan, il y a Danny Roberts, Nathaniel Wood, tous des gars qui plug. Qui plug de même, le Mark Jacasey.
Il se passe quoi avec Override?
C'est une bonne question. Le gros, je le sais pas. On va me taper son nom dans Google, voir si. Mais je pense pas qu'il est booké. Je pense pas qu'il est booké. Je sais pas, t'as-tu une suggestion? Qu'est-ce que t'aimerais le voir faire? Override?
Je sais pas, il se remet sa sauce puis affronte GDS sa sauce.
GDS sa sauce, ça serait pas payé. Sinon. Fais-toi release de ton contrat avec le UFC. Mets-toi ça à King Sauce puis va te battre à One contre Vitor.
Contre qui?
Vitor, man.
Ah, Vitor.
Mais ouais. C'est ça qu'on veut, man. On veut TRT Vitor contre Override, man.
Ouais, ça va être débile.
Le combat, genre, de qui, man, sera l'ultime saucé. Parlant d'ultime saucé, Yoel contre Costa, ça a encore été annulé, man. Là, ils sont là, genre, s'est mis s'envoyer chier un bon, pis l'autre, pas dire, genre, hey, il va se battre contre Volkov. C'est un bon fight, c'est Overeem contre Volkov. Mais, ouais, non, c'est ça. Yoel, il a genre straight up dit, oh, ouais, moi, je le sais pourquoi le combat a été annulé, c'est à cause du Sada, il a fait un test sur Sada. Là, t'as le manager à Costa qui est genre, gros, ta gueule, c'est pas vrai, man, c'est pas arrivé, c'est des mensonges, plus on l'a se blaster là-dessus, fait que.
C'est sûr que c'est vrai!
C'est sûr que c'est vrai, là.
C'est vrai, drôle. Parce que Yoel doit avoir des contacts dans USADA, là, pour ne pas tester positif, fait qu'il sait très bien.
C'est genre, dès qu'il y a un test positif, son genre, il appelle Yoel, ils sont genre, Yoel, un tel a testé positif, le gros.
T'es, oh, t'es!
Dans son
rapide!
Hein?
Le call à Oli Aubin là-dessus?
Non! C'est quoi qu'il a dit?
Oli Aubin, il fait comme, est-ce qu'il va avoir assez de sauce sur la planète Terre pour nourrir ces deux personnes-là, tout leur camp d'entraînement? De quoi tu genre? C'est fucking drôle. Puis là, t'as Yoel qui a répondu. C'est
quand même. Oh ouais, je sais, j'ai vu la réponse, je m'en rappelais plus, mais j'ai vu qu'Yoel y a répondu.
Ouais.
Ah, bless you, man! See you soon, boy! I love you, Oli Aubin, merci, I love you, boy! Sûrement dit ça, là, de quoi dans le genre? Mais, ouais, gros, ça, c'est drôle en tabarnak. Sinon, genre, Overeem, moi, je veux voir Overeem contre Ngannou, là. Personnellement, là. Pas Overeem, mais De Santos, De Santos.
Ouais, ouais, être bon et tout, ouais.
Je pense que c'est ça, là, t'as pas le choix, tu fais genre ça contre... Ben, c'est deux-là un contre l'autre, pendant que Cormier attend encore voir si Lesnar va peut-être se pointer, chose qui arrivera absolument pas. Puis là, quand il va se rendre compte que ça arrivera pas, ben, tu lui donnes le gagnant d'Ngannou, De Santos, là.
Si ça arrive pas, je pense qu'il prend sa retraite, moi.
Ouais, tu penses pas qu'il...
Ben, ça a quoi de faire un combat pas payant? Un dernier combat pas payant, mettre sa legacy en jeu?
Contre Francis Ngannou, man. Une plan pour faire allumer, genre, à 40 ans, man, dans un combat que,
genre...
devrait absolument gagner, mais que je sais pas, avec Ngannou, tu sais jamais trop ce qui peut arriver, là.
C'est ça. Tu manges un coup à la Velasquez, puis tu meurs.
Ouais, gros, tu te fais knocker parce que ton genou... est pas capable de supporter l'impact que ton mangeton vient d'absorber, genre.
Ben, j'avais 200 piastres ce combat-là.
Ouais, je le sais, je voulais en venir, man, là-dessus, esti. T'es absolument un ortho, toi, au niveau du gambling. Fait que je me disais, je sais pas, man, t'as-tu des petits conseils de gambling ortho pour le monde, genre, que ce soit un combat d'MMA qui arrive ou du football ou n'importe quoi, là, tu sais, genre un smart bet, là. Dis au monde, genre, allez mettre 200 piastres de votre argent là-dessus, puis je vous garantis, vous avez le mic du fort, c'est Love Approval, que vous allez faire de l'argent.
Mon meilleur bet, ce serait Darren Till actuellement, là.
On va aller voir c'est quoi les cotes. Ça doit pas être des bonnes cotes, là.
Doit être à moins 300. Quasiment pas payant.
moins 300. On va aller
tu
voir.
Mets 300 piastres pour en faire 100, fait que mettons, ouais, non, il doit pas être payant.
Match-up. Hey, toi. Darren Till est à moins 250.
Pas si pire. Ben, pas si pire, c'est de la merde. Faut que tu fasses un combine. Non, il vaut pas la peine de bêter. L'affaire qui valait la peine de bêter, c'était comme Cowboy Cerrone contre Hernandez. Ça, ça valait la peine. J'ai bêté ce combat-là. J'avais fait un peu d'argent.
Ah, j'ai mis 50 cents sur Kamaru Usman. Moi, j'ai fait 2 Evan Cook, là. J'étais bien content.
Ah ouais, contre Woodley?
Ouais. En plus, si ça me fait chier ce combat-là, parce que ça fait 2 ans, je dis, ah, Usman pète absolument Woodley quand ils se battent. Là, j'arrive, je check un peu de tape, fais mes prédictions, pick Woodley. Pour une raison ou une autre, genre, j'ai réussi en réécoutant des combats à me convaincre que Usman allait perdre. Puis là, genre, pas longtemps après le combat, j'ai dit, Chris, ça fait 2 ans, j'ai dit qu'il va gagner. Je vais bien aller mettre genre 50 cents sur lui pour le show, la cote était bonne pis tout. Calé, j'aurais dû, si je le savais qu'il allait gagner, Usman, tabarnak, t'sais.
Il payait 5 pour 1.
Il payait, il était gros, plus 400 cucks, me semble, là, un bout, là.
Tabarnak, avoir su, j'aurais mis de l'argent.
Ah, c'est ça, c'était Storto, man, pareil. Sinon, Wonderboy contre Pettis. C'est moins 350 pour Wonderboy, plus 215 pour Pettis. Y a-t-il un bet à faire là-dessus, ou?
Ben, clairement que tu bets Wonderboy. Je veux dire, je peux pas voir Wonderboy partir. Je le trouve payant, pareil, à moins 300.
Ouais, John McDessie contre Nasrat.
Nasrat, ça va être...
C'est quoi la cote? Moins 275, Nasrat.
Ah, oh, ouais, ça, c'est de l'argent, mon gars.
Contre John McDessie, ouais.
Man, Nasrat va... Fuck, man. Wow. Payant, ça, je vais aller... J'ai perdu mon argent dans mon compte. Je vais le mettre. Je vais aller remettre de l'argent dans mon compte de betting. Pour Nasrat, fuck.
Yes, non, si j'essaie de checker vite, Gaethje Barboza est pas vraiment un bet à faire là-dessus, là. Je pense pas aller un bar comme de l'autre. C'est moins 150 Barboza, plus 125 Gaethje.
Barboza est quasiment intéressant, parce que Gaethje, dans sa carrière, il s'est jamais battu avec sa tête.
Ben oui, il se bat tout le temps avec sa tête, là, dans le sens qu'il bloque les punches avec sa tête, là.
Ouais, mais là, contre Barboza, qui est un des meilleurs striking dans l'UFC... Si tu te bats pas intelligemment, tu vas te faire knocker assurément. Surtout que je sais pas combien de combats sa mâchoire va encore toffer. Fuck, man. Ouais, là,
de toute façon, je pense qu'à toi. Lui, il a dit il avait une coupe de combats qu'il en restait, je sais pas, le 5-6 de quoi de même. Puis après tous ces combats, il en reste tout le temps un de moins. Fait que ça a l'air d'être le genre de gars que non, il ne sait jamais de sa tête d'un combat, mais il est pas assez cave justement pour se retirer à 42 ans, man, après 31 guerres de même dans l'UFC. Je pense qu'elle va nous en avoir donné 3-4 autres. Ça va être bon.
Ça va chercher ses 50 000 de bonus assurément à chaque combat, puis il se dit collé. On peut partir de business avec tout ça. Là.
Exact. Sinon, les deux derniers fights qu'on pourrait checker, le côté bête, parce que ça, je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à faire là-dessus. On a Kelvin Gastelum à plus 170 contre Israel Adesanya à moins 200.
Oh shit, Gastelum est payant.
Tu penses qu'il va gagner, toi?
Je pense qu'il y a des chances. Moi, Gastelum contre, mettons, Ray Hall, là, tout le monde met Hall.
Ouais.
Fuck, Gastelum a une tête, ses épaules, il sait se battre, il est intelligent. Tu sais, Adesanya, il a... À quel point son ground game, sa lutte est bonne, est de niveau pour...
Il n'y en a pas de lutte. Il y a un peu de lutte, pas de sol. L'affaire, c'est qu'il est bon pour... Genre, il se déplace bien, puis il est bon pour genre trouver le petit counter parfait quand tu rentres, genre. Tu sais, contre Brunson l'a shooté dès la première seconde du combat, puis c'est infiniment un meilleur lutteur que lui. Mais Adesanya, à chaque fois qu'il est rentré, il a réussi à le frapper, à faire mal, puis... D'un, ça fuckait son takedown à thème complètement. De deux, un moment donné, gros, il s'est juste fait plier, là. Fait que, moi, pour vrai, là, je pense que ce combat-là, c'est la meilleure manière pour que Gastelum aille jamais de title shot, parce que je pense que c'est un pay match-up pour lui, Israël, que Robert Whittaker. Je pense que Robert Whittaker allait plus être game de rester devant lui, puis d'échanger, puis à la limite se faire sauter d'un jambe, puis à la limite manger son meilleur coup de poing, même si. On le sait que c'est peut-être pas la meilleure idée de manger le meilleur punch de Gastelum. T'sais, il a comme prouvé qu'il a quand même du power malgré le fait qu'il est minuscule. Je pense que Whittaker, c'est direct le gars qui va manger son meilleur coup de poing, essayer d'y en donner un meilleur. Contrairement à Adesanya qui, malgré le fait qu'il est quand même wild quand il veut, il a montré justement être quand même un combattant que s'il pense qu'il faut pas qu'il prenne de chance avec ça, il prendra rien que pas de chance avec ça. Comme beaucoup de très bons strikers d'ailleurs. T'sais?
Il arrive quoi avec Weidman?
Ah, le gros, lui, c'est genre une série de blessures pis de combats où il gagne pis il se fait allumer à 15 secondes de la fin pis après il se remet en question sur toute son existence pendant 6 mois avant de retourner dans le gym pour inévitablement se reblesser, genre.
Parce que lui, c'est un gars qui pourrait faire mal à un gars comme Adesanya, je pense.
Moi tout, je pense. Mais il pourrait faire mal jusqu'au moment où il se fait allumer à 20 secondes de la fin du combat pis il perd, genre.
Ouais, pis c'est qui l'autre et tout que Rockhold avec Adesanya, ça peut être un beau combat.
Ouais, je pense que Rockhold, il a dit qu'il s'en allait à 205, là, mais ouais, c'est vrai que ça serait un bon fight, ça, définitivement. Oh,
shit, c'est vrai, ça, je me souviens. Intéressant.
Il a essayé de pogner Gustafsson.
Ouais, c'est Rockhold, c'est qui a un peu call-out à 205? C'est
Gustafsson,
John Jones.
Gustafsson. Me semble. Ben, John Jones, tout le monde call-out John Jones. Gustafsson. Ouais, mais il y a un call-out de Gustafsson, pis il l'a pas eu, c'est Anthony Smith qui l'a eu. Fait que. Ça va être un drôle de fight, ça, d'ailleurs. Ouais. Dernier.
Anthony Smith, quel.
Ouais. Je pose un autre sur qui j'ai pas grand-chose à dire. Il est hot, là, pour vrai. Genre, j'apprécie le fait qu'il a travaillé fort pour se rendre jusque-là, mais tabarnouche. C'est pas ça que t'appelles un top 5 fighter, là, entre toi pis moi, là. John Jones.
Qui ça?
Smith. Anthony Smith.
Oh, mais non.
Ah, tu sais, John Jones,
Smith le gars. Pas d'affaire, là.
Il l'a ridiculisé, là. Je pense même pas que Smith a touché avec une bonne affaire. Il a juste, genre, shut down sa game au complet, puis après, il a commencé à y faire mal, mais pas trop, genre. On dirait qu'il voulait même pas avoir l'air de mettre de l'effort à la patente, là.
Non, c'est un combat tellement facile, tu sais. T'avais pas d'upside du côté d'Anthony Smith. T'avais pas comme, il pourrait le knocker à tout moment, il pourrait faire ça. Non, y a rien qui pourrait arriver de positif, Anthony Smith, dans ce combat-là.
Ah, la seule affaire qui aurait pu arriver, c'est que.
John Jones l'a joué humble.
Ouais. La seule affaire qui aurait pu arriver, c'est que. Tu sais, le MMA, c'est le MMA. Fait que vu que c'est le gars qui avait le moins de chances de battre John Jones, ça aurait été tellement MMA que ça soit lui qui le batte. Mais j'ai l'impression que ça arrive un peu avec tout le monde, sauf John Jones, genre. Qui est juste. Tout simplement autre, là, un autre type d'humain que tous les autres, là, quand tu regardes ça, là. Mais bref, sans trop dévier, le dernier combat, je voulais qu'on check les odds ensemble, c'est Max Holloway à moins 275 contre Dustin Poirier, qui est plus 225, malgré le fait qu'il a déjà battu Holloway.
C'est intéressant. Tu sais, ça, c'est un gamble bet. Moi, je mettrais de l'argent sur Poirier, parce que dernièrement, Poirier fait juste prouver à tout le monde que c'est un top guy. Là. Il se bat de mieux en mieux. Je sais pas s'il a changé de cas dans ses entraînements, mais il performe. Il performe super bien. Il performe mieux que jamais, même. Tu sais, je pense que Poirier s'est fait tuer par un gars comme McGregor, mais au même effet que Ronda Rousey, dès qu'elle a perdu une fois, est devenue tout ce qu'il y a de plus humain, puis il a perdu son aura d'invincibilité, que tout le monde la battait. Je pense que c'est le même principe avec Conor McGregor en ce moment. Il est plus de comment c'est quoi son surnom de Mac?
Ouais, Mystic Mac.
Mystic Mac, tu sais. C'est plus ce gars-là. C'est rendu Conor McGregor, le gars qui est très, très battable, qui a perdu X nombre de ses derniers combats. Pis qui a perdu, selon moi, ses deux combats contre Nate Diaz.
Selon moi et tout. Ouais. Mais gros, si tu y donnes sa victoire contre Diaz, que c'est pas tout le monde qui est prêt à y donner, Conor McGregor a perdu dans deux des trois plus gros combats de l'histoire du UFC, là.
Ouais.
Genre, en termes de vente, pis tout, c'est tout lui qui les a, mais il s'est fait péter dans littéralement tous ces combats-là, probablement incluant celui, le rematch contre Diaz, mais ça... On pourrait en parler pendant longtemps. Là, c'était évident que si ça se rendait à la décision, il allait donner ce combat-là parce que il y avait trop d'argent dans un troisième fight pour que ça soit pas 1-1 après 2. Là. Mais bon, ouais. Ça c'est...
Ouais.
C'est ce que je pense.
Mais Habib a tellement tué tout McGregor faire.
Oh, ouais, ben ça,
McGregor reviendra jamais.
Ça c'était prévisible là, que, comme dénouement, mais c'est sûr que pour le monde qui s'en attendait pas, c'était assez... C'était sans équivoque, mon gars. Là. C'est une des astuces de raclée qu'on a vues dans des combats de grosse importance.
Qui est vénère à McGregor, là, ils ont réalisé assez vite que Habib. Fuck.
Ouais, Habib, c'est un laisse top, mais c'est ça, fait que. Holloway, moi, Holloway, ça m'intrigue à 155 livres, mon gars. J'ai l'impression que. Tu sais, il y a du monde qui vont move up et qui vont être moins bons parce qu'ils sont vraiment plus, t'sais, le taux des 145 que des 155. J'ai l'impression que lui, il va être meilleur à 155.
Hey, Holloway, là, pour faire son 145 livres, tu sais, la fois qu'il était supposé justement se battre contre Habib, là. Fuck, ils l'ont empêché de se battre à 155 parce qu'il était 190 la semaine. T'sais, fuck. C'est tu vois ça. Pas ça? Hey, 190 à 145, man, là, c'est pas humain, là.
Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que...
5, je pense qu'il va mieux performer.
Mais oui, c'est ça. Il va être juste... Tu sais, la seule différence pour lui entre 145 et 155, ça va être couper 10 livres de moins, là. Fait que c'est juste bon pour lui, là. Ouais, c'est genre, ouais. Ça va être...
De... Le monde, 145-155, là, c'est qu'il y a pratiquement deux divisions que tu pourrais jumeler ensemble, puis tu pourrais avoir des bons combats de n'importe qui, mon gars.
Oui, ouais. Tu sais, t'as Zabit qui est 6 et 1, là, je pense qu'il y a du reach sur n'importe quel 155 au monde, sauf peut-être James Vick, là, pis Grand Tatan de même, mais
ouais.
C'est James Vick.
C'est qui, Volkanovski et tout, il se bat contre Aldo, ça c'est intéressant.
Oh, sacrament. Ça, là, le gros, je déteste ce combat-là, man. Parce que Callis,
genre... Volkanovski va gagner ça.
Mais oui, mais ouais, il va le refaire, man, pis genre... Moi, je prends beaucoup de plaisir à voir Volkanovski décoller du monde. Là. C'est vraiment un de mes gars que j'aime bien gros. Mais j'ai pas envie qu'il fasse ça à José Aldo, genre. Je l'aime, moi, José. J'ai envie que José, esti, fasse ses petits combats pis il knock du monde comme Moicano, Jeremy Stephens. Il y a du monde de même, mais Chris Volkanovski, là, tu parles probablement du prochain champion. C'est soit lui, soit Zabit ou Mirsad. Mirsad, que le monde parle pas vraiment de lui, mais d'après moi, Mirsad Bektic... Ça a comme potentiel, mais le gros problème avec Mirsad, c'est le même avec Zabit, les deux gazotent au troisième round. Ouais. Volkanovski...
Ben, Zabit contre Stephen, ça a fait le monde... Je sais pas si le monde a hué, mais moi, le monde m'a texté pour me dire que c'était de la vraie merde, là, tu sais, que c'était pas un beau combat, c'était...
Ben...
Tu sais, que Zabit faisait de l'anti-combat pis tout. Moi, ouais. T'es vraiment pas satisfait de Zabit, là. Moi, je m'attendais tellement à mieux de Zabit aussi. Tu sais, Il sauvait, il frappait. Tu pouvais pas donner le combat à Stephen. Il y a tout le monde qui me dit que c'est Stephen qui a gagné. Non, man, tu peux pas donner le combat à Stephen parce que Stephen a peut-être 5% de ses coups qui ont touché. Zabit a 90.
Moi,
mais... C'est vrai que Zabit s'est sauvé tout le long, puis Stephen avait le contrôle de l'octogone, puis...
C'est vrai, mais Holloway a fait un genre de combat pareil contre Jeremy Stephen. C'est comme un moment donné, il y a des gars, t'as juste pas le choix. Tu sais, Jeremy Stephens, si tu te plantes devant lui pis tu dis, ok, on va échanger, tu vas te faire allumer, le gros. C'est sûr que tu vas te faire allumer, que t'as le meilleur menton dans la division, tu vas te faire allumer. Fait que c'est pas une bonne idée. Tu sais, Holloway, il a fait la même affaire. Il est resté à l'extérieur. Sauf que lui, au lieu, tu sais, Holloway a moins, je te dirais, de footwork. Ben, non, je dirais pas ça en fait, là, mais, tu sais, Zabit utilise plus son footwork, la manière qu'il rentre en dedans, qu'il sort dehors, rentre en dedans.
Zabit a tellement un long range que...
Ouais, c'est ça.
Mais... Il n'y a pratiquement pas besoin d'avoir un footwork pour te jouer à distance, mais il y a un footwork de débile.
Ouais.
Fait que, mon gars, c'est un as la distance, il est capable de faire chier n'importe qui.
Ouais, c'est ça.
Parlant de distance, t'as-tu vu le combat de l'autre?
Ouais. Il n'y a pas eu de distance dans ce combat-là, laisse-moi te le dire. C'était triste, là.
Moi, j'ai regardé des highlights de mon coach, tu sais, qui avait filmé un peu.
C'est sûrement tanné après un round et demi, man, parce que... Calisse. Tabarnak. Oui, c'était juste triste, là, comme combat, man. C'était triste, man. Au moins, s'il est arrivé de quoi, genre, Joe, il avait la chance de s'exprimer. On aurait pu dire, ah, ok, good job, Joe. Aussi,
ouais, j'ai vu le début du premier round, pis Joe a bien parti ça.
Il a bien parti toutes les rounds. Si tous les débuts de round avaient été ça le combat, il aurait gagné. Là. C'est juste que l'autre, il l'amenait dans la cage, genre, pis il collait dans la cage, pis il restait là, le gros, là, il restait là avec un under hook, un over hook, il mettait tout son poids sur Joe, pis il restait là. Pis il strikait pas, il faisait fuck out, le monde.
C'est lui qui m'a dit que l'arbitre avait vraiment pas fait un travail de fou là.
Non, c'est ça, vraiment pas.
Parce que. Tu sais, comme Joe a dit, on enlève pas le crédit du gars, il y a eu un. Tu sais, son game plan, c'est ça, là, c'était à l'arbitre S'il se passe aucune action dans le combat, t'es séparé là.
Ouais, c'est ça. Puis c'est à Joe de sortir et tout, mais un moment donné, t'es comme...
Ouais.
T'sais, si Joe est pas capable de sortir ou de le virer, ce qu'il faut qu'il fasse après, c'est d'en faire assez pour empêcher le gars d'améliorer sa position. Puis ça, il le faisait. Fait que rendu là, quand Joe a son dos contre la cage puis il fait rien parce qu'il peut pas vraiment rien faire, mais il en fait juste assez pour neutraliser le gars qui le colle contre la cage, ben c'est là que ça devient au ref de s'assurer qu'il y a un combat qui se passe. Parce que pour vrai, il n'y a pas vraiment de combat qui s'est passé. Il y a juste un gars qui a mis tout son poids sur Joe Valley jusqu'à temps qu'il se sente assez fatigué pour lui coller 2-3 coups de genoux, 2-3 coups de poing puis finir ça, genre.
Je te dirais que les arbitres aiment... Ben, je crois, parce que, tu sais, mon expérience de cage, c'est que les arbitres n'aiment pas trop intervenir dans le combat. Tu sais, rarement, tu vas voir l'arbitre comme caller un time-out, relever les deux gars, mettons. Tu sais, moi, je me souviens, un de mes combats, l'arbitre est venu me voir, il m'a dit, je t'avertis, là. Si tu stalles au sol, puis tu fais rien au sol, je relève le combat immédiatement, moi. Je niaise pas avec le puck. Man, je veux dire... C'est rien passé pendant un bon bout là, dans un de mes combats, puis fuck, on n'a jamais été relevé, l'arbitre voulait pas intervenir, tu sais. Fait qu'une m'emmener, c'est un combat, là. Tu veux moins aider possible, en tout cas.
Ouais, c'est, non, c'est sûr.
C'est la job d'un arbitre, c'est...
Ouais, c'est dur. C'est définitivement dur. Mais c'est parce, tu sais, c'est comme... Au sol, je comprends. Au sol, je comprends parce que t'es comme... D'autres, il y a un gars qui est sur le top dans la garde, puis là, il se tord un peu dans la garde. Il est quand même dans une position qui l'avantage en termes de MMA par rapport à l'autre combattant. Puis là, oui, si tu viens briser ça, c'est comme t'enlèves l'avantage que le gars a travaillé pour aller chercher. Puis même s'il fait pas grand-chose avec, il a quand même à travailler pour aller la chercher. Je le sais pas si j'ai vu Jeffrey dropper pour aller chercher des takedowns vraiment dans ce combat-là. Puis un moment donné, il était rien que dans une position que... Tu sais, il y avait pas de double underhook sur Joe, chacun avait leur underhook, chacun avait un overhook. T'es dans une esti de position neutre. La seule affaire que tu peux dire, oh oui, c'est Jeffrey qui gagne, c'est parce que c'est lui qui a initié cette position-là. Mais quel effort t'as à faire vraiment à MMA pour initier le clinch, tu sais? C'est pas, genre, oh, faut que je travaille, j'initie le clinch, je drop pour un takedown, j'ai réussi mon takedown, pis là, oh, j'ai réussi le sol, fait que là, je vais staller là. Là, je comprends que ça peut être chiant si l'arbitre te lève. Mais quand, t'es dans une esti de position de stalling dans le clinch, que tu frappes pas nécessairement le gars, même si tu t'accotes dessus, que l'autre, tu sais, c'est comme un moment donné, on le savait plus trop qui avait l'avantage dans cette position-là. Puis quand t'es juste dans une esti de position neutre où personne gagne, puis personne calisse rien, ben c'est là que, d'après moi, c'est à l'arbitre d'intervenir pour, tu sais, comme j'ai dit, juste s'assurer qu'il y ait un combat, là. Pas juste un gars qui veut pas se battre, qui... Puis, tu sais, je dis ça de même. Aucun reproche à Aaron Jeffrey, là. C'est ça le game plan. Il l'a exécuté, il a gagné, c'est lui le champ. Mais, tu sais, d'après moi, il a fait ses devoirs sur Joe. Il avait vu que ça allait être difficile de rentrer.
Ben, il s'entraîne avec Teodoro et tout. Ouais, c'est ça. Tu sais, il connaissait bien Joe. Fait que ça a joué peut-être un peu contre Joe. Puis, c'est quoi le main event de ce carte-là? C'était 155, hein?
Ouais, c'était supposé être 165. Triple X, mais il y a un changement de dernière minute, fait que ça a été à 160, c'était contre Cody Pfister. C'est déjà battu dans l'UFC, là, et ça s'écrivait Pfister, là, avec un P au début, là.
Ouais.
C'était battu contre Northcutt, là, c'est fait allumer. Personnellement, j'ai pas regardé. Moi, mon stream, il laguait un peu. J'étais chez un de mes chums, j'écoutais le combat à Joe en même temps qu'écouter l'UFC, puis tu sais, quand le combat à Joe a fini, j'ai juste fermé ça pour me concentrer sur la fin de Dos Santos contre Lewis, fait que j'ai pas checké le main event, j'ai vu que Prepolek avait gagné par décision unanime 30-26, fait que je me dis que c'est pas mal ça qui est arrivé là, il l'a dominé sur 3 rounds, puis l'autre était pas mal là pour
c'est ça. C'est un 155 ça ou un 145, c'est un quoi Prepolek?
Je te dirais qu'à cette heure que 165 existe dans pas mal de promotions au Canada, c'est vraiment un 165 là.
Ok, sinon c'était un 170?
Ben, il se battait plus à 170 récemment, ben je pense que 155 ça faisait vraiment chier. Mais il l'a fait plein de fois, mais ses défaites ont été là et tout, là, tu sais. Il est vraiment plus fort physiquement à 170 de ce que j'ai vu. Fait que 165, c'est vraiment un esti de beau range pour lui, là. Je le sais que t'avais déjà eu des talks de l'affronter, lui, justement, là, Carl Prepolek. Fait que ça pourrait être de quoi.
Ouais, je pense.
Ça pourrait être un bon fight, ça. Toi, si 165 arrive demain matin à tes KO, tu l'as-tu de bas ou. T'es encore libre?
Je serais déjà comme. en poids de faire 165 en ce moment, fait que je serais encore là un petit 165. Donc.
Mais c'est quoi la différence rendue là entre un petit 165, un gros 155, un moyen 170? J'ai comme l'impression que tout ça se mélange quand même bien ensemble, tu sais, au final. Là.
Ouais, je te dirais, tu sais, la manière qu'on pense, c'est. Tu regardes l'UFC, tu regardes justement un gars comme Darren Till, là.
Ouais, c'est
ça. Man, je veux dire, je peux pas affronter un gars comme Darren Till.
Non, t'sais, non,
le gars, il a le range de Joe Valley. Fuck. Je veux dire, ça vient. C'est que c'est ça. Faudrait qu'il y ait des normes qui empêchent le monde de faire des fucking sacrifices pis de se sacrifier pour faire des pesées.
Ouais. Parce
que,
tu
sais. Je trouve qu'on en parlait plus il y a un an de ça, tu sais, de la sécurité des athlètes, faire ci, un peu ça. Là, on en parle un peu moins. Je sais pas où ça s'en va. T'sais, sûrement que la résolution du problème, c'est on va faire plus de catégories. On va en mettre une au 10 livres. Je sais pas, c'est-tu la meilleure... Puis je pense, je me souviens que Pat Côté avait déjà dit ça fait partie du sport. Ouais, je suis d'accord. Mais, ouais, je sais pas.
Ça pourrait ne plus faire partie du sport. Faut juste un esti changement de mentalité. Puis comme tu dis, tu vas toujours avoir un esti Darren Till. Pour tout le monde qui veut bien faire les affaires, tu vas toujours avoir un Darren Till, genre. Puis
ouais.
C'est normal que quand tu penses à une division, genre, OK, comment je suis par rapport au 170, c'est sûr que le premier qui te vient en tête, c'est toujours le plus gros. Toujours Darren Till, toujours Max Holloway ou Zabit ou... fucking Steven Wonderboy ou Luke Rockhold ou qui sont littéralement des gars qui devraient se battre une division plus haut s'il y avait moindrement un peu de sens genre dans leur tête. Mais non, man, c'est sûr que t'en as toujours. Parce que si on se dit, mettons, le plus gros gars que tu pognerais à 170, admettons, c'est Tyron Woodley. Je pense que c'est jouable, tu sais. C'est pas le gars, il est pas si grand que ça. Il est quand même large, mais tout t'es athlétique, tout. Mais c'est sûr que quand tu viens à comparer ta grandeur à comparer d'un Darren Till ou d'un Nasty de Wonder Boy, c'est sûr que là, gros, c'est deux. Ou Rory McDonald, le gros, même exemple, là. Rory
c'est,
McDonald.
C'est surtout genre. La vie de tous les jours. À combien tu marches dans la vie de tous les jours? Moi, je marche pas gros, personnellement. Mais tu sais, les 170 livres, ils marchent. Fuck, Ronson, quand il a fait. Il a dû partir à 200, je sais pas, j'avais entendu ça, je pense, 200, 205. Man, c'est lourd là, dans la cage, là. Moi, je me suis battu à peut-être 173, 174 dans le combat. Quoi qu'il devait être... je l'ai senti lourd. Fait que je serais pas surpris qu'il était comme 180, 185. Fuck, ça paraît, là, 13 livres sur moi.
Il va essayer de repaiser ça contre Charles, mais... tu m'as dit.
Hein?
Il dit qu'il va essayer de repaiser ça dans la cage contre Charles. C'est ça, le but. C'est de faire 155 et de remonter jusqu'à 180 le lendemain, man.
Pour vrai?
Ouais.
Damn!
Damn! J'ai dit ça, Jean-Christ, tu sais, tu vas être gros, c'est sûr, mais sacrément, le gros, à ton âge, tu sais. Pas que Jesse est vieux, mais Jesse a plus de 17 ans non plus, là, le gros, là, tu sais, quand t'es jeune, peut pas mal faire n'importe quoi avec ton corps, pis faut être correct le lendemain, mais sacrament, man, à l'âge qu'il est rendu, là, c'est de couper pis de reprendre des 20, 30 livres, man, en jour, là, c'est. Je trouve ça raide en sacrament, moi, pour être franc avec toi, là.
Ouais, mais tu sais, il a l'air de dire qu'il y a une bonne équipe. Si tu fais confiance à ton équipe, mon gars, tu devrais aller loin, là, fait.
Ouais. Bon, ben, Chris, on pense qu'on va finir ça là. Le gros, ça a été quand même une bonne heure là, qu'on parle pis tout. Fait que je te remercie. T'es un habitué, fait que ben content de t'avoir eu. Puis on se fera de. On se fera de quoi après, là? Je le sais qu'on est dû pour aller bouffer un petit allô, mon coco, mais je le sais tout que. Brandon Lee voulait peut-être faire un genre de podcast célébration nourriture là, comme j'avais fait avec Fred là.
Oui.
Fait que je me dis, vu que t'as un spot à Montréal, on pourrait peut-être faire ça là puis manger aussi pour célébrer votre victoire. Peut-être
inviter. Oui, Brandon, y a pas une personne selon moi qui a eu des débuts pro autant désastreux. So, je lève mon chapeau en tabarouette de. D'être l'athlète qui est en ce moment, parce que, man, Ouais, j'en connais plusieurs qui avaient fait comme fuck off là.
Ouais, fuck ça, gros, c'est genre bon là, Brandon Lee va signer pro le bang, père. Hein, Brandon Lee va signer pro, bang, père, finit par gagner, signe pro, se fait retarder ça au moins 17 fois, je te dirais. Là, ça s'en vient fucked up, mais. Les gars de Patnaud pourraient compatir avec lui, par exemple. Isaac Blais, là, c'est lui et tout, il a de la misère en sacrament, là.
Ouais.
Isaac s'est trouvé des gars pis tout, fait que ça ressemble à ça, mais j'ai l'impression que c'est un phénomène chez les plus petits. Tu sais, quand t'as un gars, je suis à 135, là, 145, amateur, pis il est vraiment crissement bon, c'est comme dur le match amateur, pis quand il tombe pro, y a personne qui veut. Tu sais, Dominique Lacroix, chapeau à lui, mais tough luck, pareil, là, de se battre à son deuxième combat pro contre Brandon Lee quand t'as perdu ton premier combat pro, c'est pas le client le plus facile, là.
Non, c'est vrai.
Fait que...
En même temps, j'avais fait de quoi du genre. J'avais parti avec Carl Nelson.
Ouais, mais toi, est gros. C'est...
Ensuite, j'avais droppé à 145 livres. 145 livres, mon deuxième, avec Mario Pereira, qui est un des meilleurs prospects au Canada à ce moment-là. Mon gars, ça... Mais bon, ça forge un caractère, sérieusement.
Non, c'est clair.
Le caractère est forgé dès les débuts. Là. Dès mes débuts, j'ai... T'es obligé de faire face à la réalité, pis fuck, man. Ouais, tu veux percer dans ce sport-là, faut que tu montes t'as des couilles, pis fuck. Let's do it.
Mais Chris, c'est ça, fait qu'on se reparle après le combat pour genre céduler ça, là, le podcast de manger, man. Ça va être.
Alright.
Fait que thank you, mon mec. À la prochaine.
Ciao, big boy.
Ciao, là.